Écho d'ici, écho d'ailleurs. Jean-Pierre Boris, Guillaume Munier.
Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Écho d'ici, Écho d'ailleurs, l'émission qui démonte les rouages de l'économie mondiale. C'est la première émission de cette nouvelle année 2020 et j'espère qu'elle vous apportera à vous toutes et vous tous qui êtes à l'écoute, santé, bonheur et prospérité. J'adresse aussi ces vœux à nos deux premiers invités de l'année, Véronique Rich-Laurès et Elmou Mood. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Véronique Rich-Laurès, vous êtes économiste indépendante, vous avez créé une structure qui porte votre nom et qui apporte ses lumières économiques aux sociétés qui sont vos clientes et que vous réunissez régulièrement pour permettre à ses dirigeants d'échanger avec vous. Elmou Mood, vous êtes professeur d'université à Paris-Dauphine, université dont vous êtes aussi le vice-président. Vous étiez déjà tous les deux à ce micro il y a un an à peu près, pour vous livrer au même exercice que celui auquel nous allons nous livrer maintenant, c'est-à-dire faire le point sur la situation économique internationale actuelle et voir comment l'année 2020, qui a commencé sur les chapeaux de roue, peut tourner bien ou mal. Nous allons le faire aussi grâce au concours de nos correspondants, Édouard Dropsy à Abidjan, Côte d'Ivoire, Émilie Nevin à Dublin en Irlande et Lumna Anaki à New York, aux États-Unis évidemment. Je le disais à l'instant, Véronique Rich-Laurès et Elmou Mood, nous étions réunis tous les trois dans ce studio de RFI le 26 janvier dernier, c'est-à-dire il y a à peu près un an, pour essayer de tracer les lignes de force de l'économie mondiale de 2019. Alors j'ai réécouté notre conversation et Véronique Rich-Laurès, vous discerniez clairement alors un grand mouvement de marche arrière du phénomène de globalisation, une position que vous nuanciez, Elmou Mood, puisque vous n'y voyiez, vous, plutôt qu'un recul de la mondialisation, un simple reflux du commerce mondial avec une régionalisation des chaînes de valeur. Et ce qu'il vous semblait aussi, Elmou Mood, c'est que l'Afrique restait à l'écart de l'économie mondiale sur le plan de la croissance. Alors un an plus tard, est-ce que vous restez sur vos positions ? Démondialisation pour vous, Véronique Rich-Laurès ? Reflux commercial pour vous, Elmou Mood ? Véronique Rich-Laurès, à vous l'honneur.
Merci, tous mes vœux aux éditeurs, à mon tour. Pour ce sujet, pour tenter de répondre à cette question qui est quand même assez complexe, je pense néanmoins qu'on a bien entamé une phase de démondialisation, ce qui se solde par une sorte de segmentarisation des échanges, des conflits effectivement commerciaux dont on a vu les effets et qui, par nature, ont tendance à se multiplier et à inciter au repli sur soi, que ce soit de la part des États ou des entreprises. Et je pense qu'aujourd'hui, effectivement, on est un cran plus avancé dans ce processus de, je vais garder le terme de démondialisation.
Mais quels sont les événements de 2019 qui vous font dire ça ?
Alors, il y a plusieurs éléments. D'abord, le constat qui est la rétractation des flux des échanges. Mais on peut dire, bon, finalement, c'est un phénomène conjoncturel, il y a une récession industrielle, et tout ceci est temporaire. Je pense que c'est plus complexe. Ce qu'on constate, d'abord, c'est que la croissance de la demande de biens industriels est très ralentie au niveau mondial, qui a l'air des causes structurelles. On a beaucoup parlé du marché automobile. C'est pas le seul domaine qui va pas bien. C'est pas le seul domaine à l'origine de cette réduction de la demande de biens. Le surendettement est naturellement une composante importante sur fond de vieillissement accéléré des populations dont les besoins changent de facto. Et tout ceci, effectivement, est un terrain propice à moins d'échanges, à moins d'intérêt à l'échange, de sorte que le politique, lui, s'il n'y a plus d'intérêt véritablement à l'échange, c'est pas comme dans les années 90, où si vous étiez en dehors du commerce mondial, vous n'existiez pas économiquement. Aujourd'hui, c'est tout l'inverse. C'est-à-dire que ce commerce mondial donne l'impression, ou en tout cas peut être utilisé par les politiques comme une source de faiblesse ou d'affaiblissement structurel de leurs industries, comme une source de perte, quelque part, de croissance domestique, et donc comme un sujet de conflit. Et je pense que le conflit États-Unis-Chine en particulier est véritablement illustrateur de ce changement d'environnement et de ce changement de perception du politique à l'égard de l'ouverture.
Et c'est dû au vieillissement des populations.
Je pense qu'effectivement, le boom démographique, et en particulier donc des plus jeunes, des années 70 à 90, a été un formidable levier à l'ouverture des frontières. Vous savez, plus on est nombreux, plus on va chercher loin, et plus on a des besoins, et c'est véritablement ce qui s'est produit. Et aujourd'hui, on voit, et d'ailleurs quand on met graphiquement de deux courbes, la croissance par exemple de la population en âge de travailler mondial, et les échanges mondiaux en pourcentage du produit intérieur brut ou autres indicateurs, on voit que tout ceci est très corrélé, très cohérent. D'ailleurs, c'est logique. Et quand on vieillit, et n'oublions pas que parmi les pays en vieillissement rapide, la Chine, qui a été un très gros pourvoyeur de croissance de cette demande, est également un maillon très important. Donc, tout ce phénomène fait qu'effectivement, la consommation de biens se réduit, et la croissance, la consommation se réduit, ce qui génère moins de demandes, de flux d'échanges, tout simplement.
El Moumoud, vous partagez ce point de vue, on est dans une phase de démondialisation, vous disiez non, plutôt non l'an dernier, est-ce qu'aujourd'hui vous maintenez cette position, est-ce que votre attitude aujourd'hui vis-à-vis de ce phénomène est toujours aussi marquée par le scepticisme, disons?
Non, il y a des éléments que je partage dans ce constat. La mondialisation, c'est 5 composantes, c'est le commerce international et en particulier un commerce de fragments de biens, c'est-à-dire de morceaux de biens liés à la fragmentation des chaînes de valeur. Ça a beaucoup progressé depuis les 30 dernières années. La deuxième composante, ce sont les investissements directs à l'étranger. Le fait que les firmes, quand elles font obstacle, quand elles voient qu'il y a des obstacles douaniers, comme c'est le cas aujourd'hui, des tarifs, des coûts de transaction, etc., elles sautent les barrières en s'installant sur place pour vendre sur place des investissements directs. Ça, c'est la deuxième composante. La troisième composante, c'est la finance. C'est les capitaux qui circulent librement, avec des primes de risque très faibles. La quatrième composante, ce sont les flux de connaissances et de technologies via les brevets. Et ça a beaucoup progressé depuis les 20 ou 30 dernières années. Et enfin, cinquième composante, les migrations internationales. C'est ça la mondialisation. C'est en mesurant minutieusement ces 5 composantes qu'on peut avoir une observation, une conclusion sur un phénomène de reflux total de la mondialisation sur des bases nationales, ou si, au contraire, c'est un peu plus complexe. Alors, je pense que c'est plus complexe. Je pense qu'on a bien une démondialisation réelle, au sens où le commerce mondial recule structurellement depuis 2010. On observe que ce que les économistes appellent les élasticités du commerce mondial, c'est-à-dire le rapport entre la croissance du commerce et la croissance du PIB, qui était extrêmement élevé, du produit intérieur brut, pardon, des richesses créées, qui était très très élevé durant les années 90-2000, a chuté. On a une élasticité, enfin disons un rapport qui est égal à 1 pratiquement, c'est-à-dire que la croissance du commerce croît aussi vite que la croissance de la richesse, alors qu'avant, la croissance du commerce croissait presque 3-4 fois, 5 fois que celle du... Donc là, il y a bien un phénomène de reflux, et ce reflux des chaînes de valeur mondiales dans l'industrie et dans l'industrie manufacturière...
Quand vous dites reflux des chaînes de valeur, ça ne veut pas dire qu'il y a moins de valeur créée, ça veut dire qu'elle est moins fragmentée.
Qu'elle est moins dilatée, que les chaînes de valeur sont moins dilatées.
C'est-à-dire que ça voyage moins de produits.
Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, on voit moins en Asie. Et pourquoi? Parce qu'il y a deux déterminants qui sont à l'origine de cela. Le premier, c'est la hausse des coûts salariaux unitaires. Vous savez que les économistes et les entreprises aussi raisonnent pas en termes de niveau de coût salarial. C'est pas parce que vous payez quelqu'un 10 dollars et l'autre 100 dollars que c'est ça qui est important. C'est le rapport entre les salaires et la productivité. Or, le rapport entre les salaires et la productivité ont beaucoup, augmenté dans les pays émergents, en Chine en particulier. Les salaires sont devenus, les salaires unitaires, les coûts salariaux par unité produite, sont devenus presque aussi élevés que ceux des États-Unis. Alors qu'en 2000, exactement en 2000, ils étaient à peu près 30% du coût américain. Et aujourd'hui, le coût chinois ou le coût des émergents par unité produite, le coût salarial, c'est presque le même que le coût salarial par unité produite états-unien. Donc on n'a pas intérêt à dilater trop loin les chaînes de valeur pour faire assembler des marchandises, des morceaux de biens et les réimporter. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément qui pèse sur les retractations de chaînes de valeur, c'est la hausse des coûts de transport et des coûts de transaction qui intègrent d'ailleurs le coût du climat, etc. Et donc ça a beaucoup augmenté également, ce qui fait que l'intérêt pour les biens manufacturiers qui sont en particulier pondéreux, qui pèsent lourd, de se délocaliser très loin, a diminué. Donc on a une rétractation des chaînes de valeur sur des bases régionales pour organiser les chaînes de valeur de manière efficace sur des bases européennes, sur des bases asiatiques, sur des bases américaines. Et ça explique assez substantiellement plus que les mesures de protectionnisme qui ont recommencé à croître récemment. Ça explique davantage ce reflux, cette démondialisation réelle. Maintenant, quand vous regardez les autres mondialisations, les autres composantes de la mondialisation, vous n'observez pas la même chose. D'abord, 90% de l'économie mondiale, c'est les services. Je veux dire, les services, c'est d'ailleurs un constat que fait aussi Patrick Artus et que je partage.
Alors, Patrick Artus, c'est un économiste français.
Enfin, partageons un peu cette thèse depuis quelques années, qui est que les services, finalement, les choses se passent dans les services. Et les services échappent aux coûts de transaction, échappent en particulier au fait que, on ait des droits de douane qui se soient accrus, etc. Donc, on observe, finalement, paradoxalement, une relocalisation industrielle. Ça, je l'observe vraiment, je mesure, mais une poursuite des délocalisations dans les activités de service, en particulier parce qu'avec les technologies de l'information et de la communication, les services immatériels dont la marque, la nature et que la production et la consommation doivent être simultanées, du point de vue temporel, un service n'existe que quand il est consommé, eh bien cette simultanéité temporelle est réglée par les technologies de l'information et de la communication en termes géographiques. C'est-à-dire que vous pouvez offrir des services à distance de plus en plus. Donc on a deux mouvements qui sont contradictoires. L'industrie revient dans les pays du centre, les services plutôt ont tendance à délocaliser. Et puis par ailleurs, si vous voulez vendre vos marchés quand les droits de douane augmentent, ça c'est pas contradictoire avec la régionalisation des chaînes de valeur, il faut que vous alliez sur place. Donc les investissements directs à l'étranger continue à augmenter depuis 2012, 2013, 2014. Donc on observe, si vous voulez, des phénomènes qui sont plus nuancés. Mais c'est pas tellement contradictoire. On n'est pas dans une phase, si vous voulez, d'hypermondialisation. D'ailleurs, on ne l'a jamais été à part la finance. La mondialisation a toujours été un phénomène de concentration, de polarisation des activités dans l'espace. Mais aujourd'hui, on a effectivement un recul de l'ultra, disons, mondialisation dans certains domaines. Mais par ailleurs, elle se poursuit assez activement dans d'autres types de composantes de la mondialisation, les services, la finance et également les technologies, les connaissances et les idées, si vous voulez. Donc je pense qu'il n'y a pas un phénomène de recul global, massif de nationalisation.
On a compris voilà. De votre point de vue. Véronique Riche-Flores, vous vouliez réagir à ça?
Oui, plusieurs choses. Alors, on a parlé ou vient d'être évoqué la relocalisation industrielle, que pour l'instant on ne voit pas. Bon, mais on pourrait dire à la limite, c'est bien la preuve que la mondialisation persiste et qu'en l'occurrence, il n'y a pas de retour des industries ou très peu. Et si c'était le cas, sans doute que nos économies ou l'investissement dans nos économies se porterait un petit peu mieux. Je pense que les cinq composantes de la globalisation, et de la mondialisation, sont en l'occurrence complètement liés. Et que tout ceci est un phénomène de temps, qui va prendre du temps, probablement plusieurs décennies d'ailleurs. Là, il y a pour le coup une espèce de chaîne, et qu'on sait qu'en général, l'échange de biens est suivi de transactions financières, d'une multiplication des transactions financières qu'on ne peut pas, absolument pas isoler. Et d'ailleurs, on le voit quand on regarde les statistiques de la BRI, de la Banque des Règlements Internationaux, quand on regarde les engagements des banques, les unes par rapport au reste du monde, enfin, et aux autres, donc, il y a clairement des tendances qui sont très, très fortement corrélées au flux des échanges mondiaux ou à ces indicateurs d'élasticité qui viennent d'être mentionnés. Donc, je pense que tout ceci prend forme peu à peu. En termes d'investissement, bien évidemment, l'investissement international continue à monter. Enfin, en termes de croissance et de pourcentage du produit intérieur brut, là aussi, on a un écrasement des flux d'investissement direct qui est massif. Et donc, je pense que tout ceci, même si... Alors, qu'est-ce qui fausse un peu la donne? C'est que le mouvement de mondialisation, pour l'instant, on est sur un plateau. Ça veut dire qu'on est encore très, très élevé hein, par rapport à l'histoire. Et on commence seulement à descendre de ce plateau. Et les choses évoluent différemment selon un secteur. Enfin, je rajouterai une contrainte, la contrainte climatique, qui, elle, va sonner probablement le glas de la mondialisation et des échanges complètement délirants à travers la planète.
Oui, juste un point. Il ne faut pas surestimer l'intensité de la mondialisation avant la démondialisation, en gros. D'accord. C'est-à-dire qu'au fond, il y a une sorte de vulgate et de vue de l'esprit qui est d'avoir considéré qu'on était dans un phénomène de planétarisation des échanges. Ce qui n'est pas du tout le cas. Quand on regardait la part des choses qui étaient internationalisées, ça restait tout de même minoritaire. Que ce soit en termes de nombre d'entreprises qui exportent, en termes de nombre d'entreprises qui investissent à l'étranger, etc., c'était pas un phénomène majeur. Et il y avait en particulier aussi beaucoup de pays comme les pays d'Afrique qui étaient assez exclus de ce processus. Donc la mondialisation, c'est pas le monde plat, the world is flat, de Thomas Friedman, qui nous montrait un monde connecté sans frontières. Ça n'a jamais été le cas, sauf pour la finance. Je pense qu'on est dans un effet, on est dans un monde que je qualifierais, qui n'est pas très éloigné de l'idée du plateau, qui est plutôt la question, on est dans une période de post-mondialisation.
Alors je vous arrête, Mahmoud, parce qu'on va aller sur le terrain avec un reportage. Voilà, un exemple de concentration peut-être des chaînes de valeur, c'est en Côte d'Ivoire, pays devenu en quelques années le premier producteur mondial de noix de cajou. Une noix dont la transformation était jadis le monopole des pays asiatiques, un des Vietnam. Or, la Côte d'Ivoire est en train de monter en gamme dans ce secteur. Écoutez ce reportage Éco d'ici Éco, d'ailleurs signé Edouard Dropsy, entre Abidjan et Boaké en Côte d'Ivoire.
Marché Saint-Jean, au cœur d'Abidjan, sur son étal, Ram vendait mangue séchée, du cacao et des noix de cajou.
Bon, on en vend beaucoup. On peut vendre jusqu'à 10 kilos, 20 kilos, ça dépend. Mais il y a d'autres qui prennent pour voyager avec, pour aller en extérieur. Il y a d'autres qui prennent pour aller revendre en extérieur. Donc quand eux prennent beaucoup pour aller revendre.
Pourtant, c'est à l'étranger que se joue le marché ivoirien. Premier exportateur mondial, la Côte d'Ivoire ne s'est engouffrée que récemment sur ce marché. Contrairement à ses concurrents directs que sont l'Inde ou le Vietnam, le boom de la noix de cajou date ici du début des années 2010. Nous sommes à Bamoro, au centre du pays. Kwaku Nguessan est planteur. Il possède 3 hectares d'anacardier.
Tu vois le grain? Voilà, c'est le grain qui est là. Ça commence à donner. Ici, dans 2 semaines... ça a commencé à tomber.
Officiellement, l'État a fixé un prix bord champ, soit un minimum de 375 francs CFA le kilo, pour pallier la crise qu'a connue le marché mondial de la noix de cajou l'an dernier. Mais ce tarif n'est pas toujours respecté par les acheteurs.
Bon, en fait, mais on va dire quoi? Puisque ils viennent envers nous pour nous payer, on est obligé, puisqu'on ne peut pas conserver ça comme ça, garder ça chez nous. On est obligé de les donner, pouvoir gagner un peu et puis nourrir la famille.
Ça veut dire que du coup, vous avez combien par mois alors, enfin, quand vous récoltez?
Si la production est bonne, on peut avoir 250 à 300.
Le kilo?
Oui.
Et c'est au marché de Gros de Boaké, à une dizaine de kilomètres au sud, que l'on retrouve une partie de la production nationale qui alimente toute la sous-région.
Ouais, c'est l'anacarde, c'est les anciens socs, c'est le soc de l'année passée.
Mohamed Lamine Sanogo est le directeur général de ce marché de Gros.
Moi, je ne dirais pas qu'il y avait une crise. Il y avait une crise à ce niveau. Ça dépend, je veux dire, que des prix fixés par les cours mondiaux. Donc, en fonction de ça, l'État cherche à rémunérer le mieux les producteurs. Et je pense que c'est ce qui est fait, que ce soit au niveau du cacao, que ce soit au niveau de l'anacarde.
Mais contrairement à ce que dit le directeur général du marché de Gros de Boaké, il n'existe pas de tarif minimal au niveau mondial. Le gros de la noix de cajou étant détenu par des PME, il n'existe pas de bourse mondiale, comme pour le cacao.
Ça, c'est le magasin de calibrage des noix de cajou brutes.
Nous voici à Toumodi, à 200 km au nord d'Abidjan. Ici, Ahmed Kamil a monté une des rares usines de transformation de noix de cajou du pays et se félicite des mesures incitatives du gouvernement pour résister face à la concurrence internationale.
En tant que transformateur, nous avons un quota qui nous est attribué par le Conseil coton anacarde. Ce quota, qui est de 15%, nous le prenons envers les exportateurs. Ils ont une obligation de nous donner 15% de leurs produits qu'ils doivent exporter. Du point de vue approvisionnement, nous n'avons pas ce souci-là. Maintenant, concernant les prix, il faut reconnaître que c'est passé triple au simple. On était à peu près à 700-800 francs, on est passé à 350, même en dessous de 350 francs.
En 2019, la production ivoirienne de noix de cajou a été de 730 000 tonnes et les prévisions du Conseil coton anacarde pour 2023 portent ce chiffre à plus d'un million de tonnes, et ce, si la Côte d'Ivoire reste stable politiquement et économiquement.
Un reportage signé Edouard Dropsy à Abidjan, Bouaké et en Côte d'Ivoire. Donc, Écho d'ici, Écho d'ailleurs sur RFI, nous parlons de l'économie mondiale, de l'état dans lequel elle se trouve aujourd'hui et des perspectives de l'année 2020 avec deux invités, Véronique Florest, économiste indépendante, et El Moumoud, professeur d'économie à l'Université Paris-Dauphine. El Moumoud, est-ce que ce reportage d'Edouard Dropsy illustre un peu cette concentration des chaînes de valeur? Est-ce que, ou simplement c'est un facteur de développement de l'économie ivoirienne qui émerge là?
Oui, pour moi, ce que j'entends, c'est une tentative de, en quelque sorte, de descente de filière. C'est-à-dire, on part des produits bruts et on essaye de les transformer pour pouvoir développer une industrie d'exportation dans l'agriculture. C'est pas vraiment quelque chose de central dans les chaînes de valeur mondiales. On voit, si vous voulez, quand on regarde les chiffres, et qu'on mesure le contenu en biens intermédiaires importés. Hein. Quand on importe des consommations intermédiaires qu'on inclut dans la valeur ajoutée, donc la part des biens intermédiaires importés dans la valeur ajoutée par secteur, on voit que pour l'industrie, c'est extrêmement élevé. Effectivement, c'est en moyenne, de, selon les pays, entre 20 et 30% hein, de la valeur ajoutée industrielle qui est importée. Et quand on regarde l'agriculture, on est à peu près en moyenne à 4%. Donc l'agriculture, c'est pas encore, sauf pour les États-Unis où c'est beaucoup plus élevé à cause de l'industrialisation de l'agriculture. L'agriculture n'est pas vraiment le domaine dans lequel on a une chaîne de valeur mondiale dilatée, etc.
Véronique Richflores, globalement, la Banque mondiale vient de réduire ses prévisions de croissance pour 2020 à 2,5%. Pour 2019, selon la Banque, on aurait enregistré une croissance à 2,4%, la plus faible depuis la grande crise des années 2008-2009. C'est inquiétant, c'est rassurant. Ce sont des chiffres qui ne suffisent pas à maintenir l'activité économique globale à des niveaux satisfaisants.
Ça pourrait être des chiffres ponctuels et dans ce cas peu inquiétants parce que finalement la conjoncture va et vient. Je crois que dans le cadre présent, l'histoire est différente. Donc, en l'occurrence, on n'est pas au bout d'un cycle ou face à une respiration cyclique classique. On est l'économie mondiale est confrontée à des phénomènes de ralentissement structurel de sa croissance. On vient de parler des échanges. Ce qui a disparu dans la et l'impact de ce que moi je qualifierais de démondialisation, mais peu importe le terme ou ce qu'on y met derrière, c'est que les échanges, la croissance des échanges mondiaux et la multiplication de ces échanges a été un levier de croissance et de distribution de la croissance à échelle mondiale qui aujourd'hui a disparu. Hein. Alors peut-être que je me trompe sur le diagnostic de démondialisation, mais ce qui est à peu près certain, c'est que si on ne retrouve pas une dynamique des flux d'échanges, alors on aura beaucoup de mal à retrouver une croissance solide ou suffisamment pérenne pour... Pourquoi ? Eh bien, pour résoudre nos déséquilibres, pour mieux distribuer les fruits de la croissance, pour retrouver un niveau de hausse des prix, pas parce qu'on veut de l'inflation, parce qu'il faut ce matelas de sécurité qui est reflété par des taux d'inflation et qu'on voit que quand ce matelas de sécurité, ce taux d'inflation est trop faible, alors on a beaucoup de mal à assurer un équilibre dans la distribution des richesses. On a donc beaucoup de mal à assurer la stabilité sociale et politique. Donc c'est tout ça que reflète ou ce sont tous ces messages quelque part que nous renvoient les prévisions de la Banque mondiale et qui font qu'effectivement aujourd'hui, vu et particulièrement en ce début d'année, les conditions dans lesquelles on aborde l'année 2020, les tensions, les conflits sociaux, vous voyez l'état de l'Amérique latine, vous voyez la situation en Asie, sans parler bien évidemment de la situation sociale en France, on voit bien que aller se dégager de ces faibles taux de croissance va être très difficile. Et donc plus on s'enlise avec cette faible croissance, plus ça devient complexe et angoissant, je dirais.
Angoissant, El Moumoud.
Oui, alors il faut toujours avoir pour citer Gramsci, le pessimisme de la raison et l'optimisme
alors,
de la volonté.
Gramsci, Antonio Gramsci, un philosophe, économiste, politiste italien.
Ok, non, c'est juste pour blaguer un peu. Mais non, je pense que il faut pas surestimer l'impact du commerce mondial sur comme moteur de la croissance. Hein. Il y a eu plusieurs rapports, en particulier un rapport de la CNUSED qui travaille beaucoup sur les investissements directs, qui montrait que c'est les investissements directs qui ont été beaucoup le moteur de la croissance. Si vous regardez sur la période, en mesurant les choses correctement, hein, c'est-à-dire depuis de 1990 jusqu'à 2010, le commerce mondial croissait deux fois plus vite que la production mondiale. Si vous regardez les investissements directs mondiaux, ils croissaient presque deux fois plus vite que le commerce mondial. C'est-à-dire que les élasticités d'investissement direct par rapport à la création de richesses étaient encore beaucoup plus rapides que celles du commerce. Et pourquoi ? Ben parce qu'effectivement, les économies industrialisées ont connu cette transformation qui était anticipée par tous les économistes, qui est la part des services dont le PIB a augmenté considérablement. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui, si vous prenez l'économie française, 75% de l'emploi et de la valeur ajoutée sont dans les services. Le reste, l'industrie, c'est 11% de la valeur ajoutée. Donc mais si vous voulez, alors il y a des changements. La littérature est beaucoup plus nuancée aujourd'hui. Si vous voulez, quand vous regardez maintenant le commerce mondial en valeur ajoutée, vous voyez que la part des services dans le commerce mondial reprend considérablement. La théorie de la base qui considérait que c'est l'industrie qui tire les services et qui tire le reste, elle est remise relativement en cause parce qu'il y a des services industriels, des services aux entreprises qui sont des services à forte valeur ajoutée qui ont été relativement déconnectés.
Donc pour 2020, vous êtes beaucoup moins pessimiste.
Non, alors je suis pessimiste. C'est pas du tout les mêmes raisonnements. Là, on est en train de parler de qu'est-ce qui est catalyseur de la croissance. Je dis juste attention, le catalyseur de la croissance, le commerce mondial a joué un rôle, mais ça n'était pas le primordial en quelque sorte. D'ailleurs, quand vous regardez les effets du protectionnisme aujourd'hui, alors il y a des travaux récents hein, qui sont précis là-dessus, qui mesurent l'impact des mesures de protection, parce qu'on a eu des mesures, ça a augmenté à peu près aux États-Unis de 5 à 10% les droits de douane hein, en moyenne. Donc c'est pas rien si vous voulez en termes d'impact hein. Mais quand vous regardez l'impact sur l'économie mondiale, il est relativement négligeable. Pourquoi il est négligeable? Bah parce que ce sont d'autres facteurs bien plus fondamentaux qui vont jouer le rôle de catalyseur. Bah, en particulier précisément la question de la demande mondiale, la consommation mondiale, mais ça qui n'est pas forcément lié aux échanges mondiaux, qui est lié au fait que vous avez une atonie en Europe depuis déjà une quinzaine d'années du pouvoir d'achat des ménages. Vous avez les phénomènes de vieillissement qui ont été abordés précédemment, et ceux-ci n'ont pas forcément besoin de la question des échanges commerciaux. En fait, en réalité, on est rentré dans une période longue de croissance lente, que les économistes analysent bien. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une croissance des années, des 30 glorieuses, c'est terminé. Et ce le sera davantage encore quand on regarde en effet les changements structurels liés à la transition énergétique. On a moins besoin d'aller chercher, je me souviens, il y a une trentaine d'années, je pensais que déjà, qu'on aurait un phénomène de recomposition dû au fait des échanges, dû au fait que avec
la fin du pétrole
et puis les énergies fossiles, etc. Et même plus encore les plastiques, les machins, vous allez avoir beaucoup moins d'échanges qui sont liés
aux
matières. Non, je pense vraiment que c'est ce qui est en train de se passer.
Oui, Il y a 30 ans, non.
Mais aujourd'hui, on anticipait cela. Je veux dire, on anticipait ce phénomène de changement. Donc, il me semble que si vous voulez, il faut distinguer deux choses. Les moteurs de la croissance, le pessimisme qu'on peut avoir sur la croissance mondiale aujourd'hui, il est tout à fait important, puisque il faut regarder ensuite point par point. L'OCDE recule, les pays de l'OCDE, les pays riches de l'OCDE ont une croissance qui baisse. Les États-Unis, qui étaient sur une croissance forte, à 3% à peu près, vont reculer selon les prévisions. Et en particulier dans le cas des États-Unis, il faut bien savoir que on était sur un cycle long de croissance, exceptionnel depuis pratiquement les années 50. On n'a jamais eu de cycle de 10 ans de croissance. C'est-à-dire depuis maintenant Obama, depuis 2008, on a une croissance. Et donc on arrive à la fin d'un cycle. Et puis troisième élément d'inquiétude qui, moi, est majeur pour moi, beaucoup plus que tout le reste, c'est les risques de crise financière majeure. En fait, on n'a rien appris de la crise financière des subprimes de 2008 et on a continué à déréguler la finance de manière aussi forte qu'avant. Et là, on a des menaces sur les dettes publiques, bien sûr. On a des menaces sur des risques de crise bancaire, de crise financière qui peuvent renforcer ce côté, disons, un peu déflateur de la croissance américaine, la croissance de l'OCDE. Quelques émergents, la Chine recule aussi de 5 à 4,9. Donc, enfin, on a quelque chose qui est effectivement pas une période de conjoncture forte, mais c'est quelque chose qui est plus structurel que conjoncturel. Ça, c'est un point que je partage.
Alors, Vous parliez à l'instant, El Moumou, des États-Unis. L'économie américaine, même si la croissance baisse, semble plutôt bien se porter. Le chômage est au plus bas. Pourtant, tout n'est pas rose, loin de là, dans ce système économique. Écoutez ce reportage Écho d'ici, Écho d'ailleurs, signé Lumna Anaki à New York, sur les tarifs exorbitants d'Internet aux États-Unis.
Sur les marches de cette bibliothèque municipale du Bronx, une jeune femme est assise à un ordinateur sur les genoux.
Là, j'attends que la bibliothèque ouvre, mais c'est fermé jusqu'à 10 heures et je ne peux pas attendre. J'ai besoin d'envoyer des documents importants par mail.
Sans emploi, depuis 4 mois, Johanna Marlin profite du Wi-Fi qui provient de la bibliothèque pour faire ses recherches.
Aujourd'hui, tout se fait par Internet. Trouver des annonces, postuler, confirmer les rendez-vous pour des entretiens. Sauf que je n'ai pas Internet chez moi.
La vie sans Internet à la maison, c'est la réalité d'au moins 2 millions de New Yorkais. Pamela Garcia est maman de deux garçons de 12 et 7 ans. Pour répondre à leurs questions ou pour les devoirs d'école, c'est au coin de la rue qu'ils vont, autour d'un kiosque de Wi-Fi gratuit.
On s'assoit sur un coin, un banc, pas loin.
Il y a quelques mois encore, Pamela Garcia payait $80 pour avoir Internet chez elle avant de devoir tout résilier.
À la fin, j'ai dit à mes enfants qu'on ne pouvait plus continuer. C'était beaucoup trop cher. Je leur ai dit qu'avec cet argent, on pouvait acheter à manger. On peut aller au zoo et leur acheter quelque chose à manger.
Aux États-Unis, avoir Internet chez soi coûte 2 à 3 fois plus cher que dans des villes comme Londres ou Paris pour des services équivalents. Résultat, des millions de personnes n'ont pas les moyens de souscrire à des abonnements. À New York, la mairie tente depuis plusieurs années de rendre Internet plus accessible. De nombreux projets ont été mis en place. Du Wi-Fi gratuit dans les parcs à la transformation de vieilles cabines téléphoniques en spot Wi-Fi. Les bibliothèques municipales proposent elles aussi des services très populaires, selon Daniel Landsman de la Bibliothèque publique de New York.
Les bibliothèques se sont toujours mises au service des New Yorkais. Et Internet et l'accès à toutes les informations que cela peut fournir est une extension de notre mission. On est là pour répondre à un réel besoin.
Depuis quelques années, en partenariat avec les écoles, les bibliothèques proposent même aux familles dont les enfants sont scolarisés de louer gratuitement des box Wi-Fi.
Les enfants qui n'ont pas Internet à la maison sont en retard sur les cours en classe. Il y a tellement de choses qu'on peut faire en ligne, de la vidéo tutorielle à la recherche d'informations. Et les enfants qui n'ont pas ça doivent courir à la bibliothèque, prévoir le temps d'y aller ou trouver du Wi-Fi accessible qui sort de quelque part.
Cette année, 10 000 familles ont pu bénéficier de ce programme. Les bibliothèques municipales espèrent avoir des moyens supplémentaires pour pouvoir inclure d'autres foyers. Leur modèle a déjà été adopté par d'autres villes des États-Unis en attendant que le problème des prix exorbitants soit un jour résolu.
Un reportage signé Lumna Anaki à New York. Surprenant, n'est-ce pas, Véronique Riche-Flores, cette difficulté d'accès d'Internet aux États-Unis, qui est pourtant une économie florissante, c'est le cœur des services. C'est l'Internet.
Absolument.
Dont vous parliez tous les deux.
Absolument surprenant, surtout au royaume de Google
et des autres.
Et je pense qu'on aurait pu avoir une partie du reportage sur la téléphonie aussi, parce que je crois, enfin, si les choses n'ont pas changé, le coût de la téléphonie est très exorbitant pour nous, en tout cas, en comparaison de ce qu'on paye. Et donc, je pense qu'effectivement, c'est une des conséquences du régime américain qui, malgré ses évolutions spectaculaires, est incapable d'assurer finalement un minimum de services publics, on va dire, ou services, oui, à la hauteur et accessible à tous. Donc oui, c'est très intéressant.
Est-ce que ce genre de phénomène peut être un frein pour la croissance de l'économie américaine, El Moumou?
Bien sûr, bien sûr. Alors vraiment là, il y a quelques travaux. La formation de monopole, d'oligopole aux États-Unis, Thomas Philippon parle dans son livre, effectivement.
Le livre qui s'appelle The Great Reversal.
Exactement.
Et qui est publié en anglais, pas encore en français. Nous en parlerons dans cette émission bientôt.
Ça fait plusieurs années qu'on observe des prémices de cela, c'est-à-dire d'une concentration de la production et du capital sur peu d'acteurs. Une sorte de confirmation de la loi de Wagner, qui était un économiste d'école historique allemande il y a maintenant 2 siècles de ça, et qui prédisait ça en disant que, en fait, l'économie de marché a tendance, avec la hausse des économies d'échelle, le progrès technique, etc., à se former en oligopole, en monopole même. Et ces monopoles sont coûteux, effectivement. Alors, le paradoxe, c'est que dans l'économie américaine, qui se veut la plus concurrentielle du monde, celle du libre marché, c'est là où la formation des monopoles accroît les prix. Et effectivement, par rapport à l'Europe, on a des prix qui sont dans la téléphonie mobile, dans la téléphonie, dans le domaine de l'internet et de l'information, de la communication, qui sont exorbitants au regard à ce qu'ils devraient être dans une économie plus concurrentielle. Et je pense que d'ailleurs, la politique de Trump ne fait qu'aggraver cela. Pourquoi la politique de Trump ne fait qu'aggraver cela? Parce que contrairement à ce qui a été avancé dans la propagande, ça n'est pas une relocalisation de l'activité industrielle qui a eu lieu aux États-Unis réellement, parce que celle-ci, elle avait déjà commencé dans les secteurs où on a pu automatiser les processus de production bien avant l'arrivée de Trump au pouvoir. Mais c'est plutôt une relocalisation des centres de profit aux États-Unis, parce que la baisse du taux d'imposition des bénéfices a été tellement forte finalement, un certain nombre d'entreprises ont rapatrié les centres de profit pour les localiser de nouveau aux États-Unis. Et cet argent qui a coulé à flot aux États-Unis a permis d'ailleurs d'aggraver encore plus la concentration industrielle. C'est-à-dire que les groupes qui avaient plus d'argent pouvaient racheter encore plus les start-up, les petits, etc. Et on a un phénomène de concentration qui ne peut s'arrêter tout seul, qui ne peut s'arrêter sans régulation publique.
Est-ce que c'est à l'origine de cette politique, Véronique Richloret, de la flambée des cours de bourse? Est-ce que cette bonne santé de Wall Street, du CAC 40, c'est une conséquence de cette politique de Trump?
Je suis pas convaincue. Je pense que c'est surtout une conséquence d'une dérive qui dure depuis mieux des années 90, d'une dérive du système, et des crises successives. Alors, la dérive du système, c'est d'abord l'accumulation des dettes qui a conduit à cette crise de 2008. Après cette crise de 2008, effectivement, la confiscation de ce ressort de croissance qu'a été le recours à l'endettement a fait que nos économies ont été fragiles, que les systèmes bancaires et financiers sont restés fragilisés et que les banques centrales la politique économique budgétaire plutôt démunie a laissé tout le travail se faire par les banques centrales, donc des taux d'intérêt, des injections de liquidités, des taux d'intérêt très faibles à un moment donné où vous avez beaucoup de doutes structurels. Quand vous êtes une entreprise, que vous avez envie d'investir aujourd'hui, vous investissez dans quoi? Moi, poser la question à mes étudiants. Je lui dis, demain, vous avez 1 million d'euros. Vous faites quoi? Vous le placez dans quoi? Vous investissez dans l'économie réelle ou vous le mettez sur les marchés financiers? Il n'y en a pas un qui a levé le doigt en disant, je l'investis dans l'économie réelle. Parce qu'effectivement, on est à la charnière de changements structurels tels que l'incertitude est très grande, que la garantie de la rentabilité de l'investissement économique est très faible ou très incertaine. Et que donc, dans un contexte où tout est fait pour plutôt attirer, effectivement, avec des politiques monétaires qui sont celles qu'on a, les capitaux dans la sphère financière, on se retrouve face à un monstre financier. Et on a tellement peur que ce monstre financier nous lâche que, du coup, chaque éternuement ou inquiétude, on en remet une louche. C'est exactement ce qu'est en train de faire la Réserve fédérale américaine depuis le mois de septembre, avec une augmentation de son bilan à nouveau, de plus de 400 milliards de dollars en quelques semaines. De liquidité injectée. Donc forcément, si vous avez des taux d'intérêt très faibles d'un côté, en partie pour des raisons structurelles, voire certainement démographiques, et des incertitudes climatiques, géopolitiques, techniques, vous n'investissez plus dans l'économie réelle, vous allez profiter de cet environnement d'hyperliquidité pour aller investir, comme la plupart des investisseurs le disent. Mais où voulez-vous que j'investisse aujourd'hui avec des taux à zéro ou négatifs? Donc, dans les actions, et puis on continue à entretenir un rêve qui se transforme en quoi? En une gigantesque économie de rente. C'est pas ça le capitalisme. En tout cas, c'est à mon avis la mort annoncée du capitalisme sain.
Le capitalisme, il y a un pays en Europe qui en est peut-être l'incarnation, c'est la Grande-Bretagne qui veut sortir de l'Union européenne. La décision a été actée définitivement par un vote des communes il y a quelques heures. Et proche de cette Grande-Bretagne, il y a un autre pays qui accueille, grâce à des règles fiscales extrêmement souples, de nombreuses entreprises de l'Internet en particulier, c'est l'Irlande. À Dublin, un quartier accueille les entreprises Google, Facebook, Apple. Et il a gagné le surnom de Silicon Docs en référence à la Silicon Valley américaine. Mais la réalité de l'entrepreneuriat en Irlande est plus contrastée. C'est un reportage Écodissier Co d'ailleurs de Emeline Vin à Dublin.
La petite entreprise de Mark Cummins, Pointy, siège dans un immeuble en briques rouges au cœur des Silicon Docs de Dublin. À l'intérieur, des bureaux à hauteur réglable pour la centaine d'employés, des post-it sur tous les murs, une véritable ambiance de start-up.
On fabrique un outil pour les petits commerçants. Vous le branchez à la caisse enregistreuse et à chaque produit que vous scannez, ça va créer une page web pour le magasin. On s'est lancé en 2014. La première année, on était 5 ou 6.
Mark Cummins quitte alors son poste d'ingénieur chez Google. Il a déjà créé une première entreprise d'intelligence artificielle que le moteur de recherche lui a racheté en 2010. La création de sa deuxième PME ne lui a posé aucun problème.
Tout a été plutôt facile. Il n'y a pas tellement de règles. L'entreprise a été créée en un jour ou deux auprès de notre comptable, pour presque rien.
Une facilité administrative combinée à une concentration de talents due à la proximité avec les GAFA.
Maintenant qu'on a grossi et qu'on a plus de moyens, nous souhaitons ouvrir des postes à responsabilité. Pour ces postes, certains profils très expérimentés viennent des multinationales. On peut puiser dans leur vivier de talents.
Une petite entreprise comme Pointy offre davantage de flexibilité, de visibilité dans l'entreprise que les géants du numérique. Ces PME dépendent en grande partie de la main-d'œuvre étrangère en raison du faible taux de chômage irlandais, 4,8%. Daniela, responsable des ventes chez Pointy, a été séduite par la culture Silicon Valley.
La dynamique des entreprises ici est vraiment bonne, c'est vraiment sympa de travailler ici. Tout le monde est très ouvert, on s'entraide. C'est très différent du Brésil. Là-bas, vous ne pouvez pas parler directement au patron, il faut passer par différents niveaux de communication. Ici, vous pouvez vous adresser à n'importe qui.
Pour attirer les entrepreneurs, l'Irlande vante un faible taux d'imposition sur les sociétés, 12,5% quand la moyenne de l'OCDE se situe plutôt aux alentours de 25%. Une promesse un peu trompeuse, selon Sven Spolenberens, il dirige l'association irlandaise des petites entreprises.
Si vous possédez une petite entreprise, l'impôt sur les sociétés ne vous concerne pas car vous n'aurez aucun profit pendant les premières années. Et puis ça coûte cher de faire tourner une entreprise. L'assurance coûte cher, les loyers coûtent cher et à cause du plein emploi, les employés peuvent demander n'importe quel niveau de salaire.
L'impôt sur les plus-values lors de la vente d'une entreprise se situe à 33%, un taux qu'il juge dissuasif. Et les aides des agences gouvernementales ne sont destinées qu'à une poignée de start-up.
Les agences aident seulement les start-up qui ont un fort potentiel exportateur ou qui sont très innovantes. Seulement, il reste de nombreuses entreprises qui ne sont ni l'un ni l'autre.
D'ailleurs, le taux de survie des PME en Irlande n'est pas meilleur qu'ailleurs en Europe. Seule une entreprise sur deux souffle sa cinquième bougie.
Un reportage signé Emeline Vin à Dublin. Helmut Mood, est-ce que ce monde économique irlandais, européen, est menacé par le Brexit? Est-ce que on ne sait pas exactement ce qui va se passer. Est-ce qu'à votre avis, en 2020 et après, la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne risque de déséquilibrer cette machine économique européenne?
Alors, dans les travaux récents qui ont eu lieu sur les effets prévisible sur le Brexit, parce que effectivement on n'a pas encore une sortie, l'Irlande est le grand perdant dans cette histoire. L'Irlande, l'Écosse également. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle ils essayent de se battre pour rester dans l'Union européenne.
Les Écossais
en particulier.
Parce que
l'Irlande y reste. Mais donc l'Irlande a subi finalement, c'est le pays qui, c'est l'exemple même du pays un peu à l'image de Singapour dans les années 60-70, c'est le pays qui est vraiment inséré dans les chaînes de valeur, alors là américaines, européennes, etc. Et donc effectivement le fait que il est, entre la Grande-Bretagne, l'Angleterre et l'Irlande, il y a aussi énormément de mouvements, hein, de délocalisation, etc. Et donc que ce soit soit dans l'agriculture ou l'industrie manufacturière, les risques pour l'Irlande sont assez forts. Maintenant, est-ce que ça aura un impact tellement important pour l'Europe, pour la Grande-Bretagne sans doute, ça c'est certain, pour l'Union européenne en tant que telle, je parle du Brexit, je pense qu'on est dans des marges qui sont plutôt déjà un petit peu anticipées par les acteurs. Hein, parce qu'en fait, le gros problème, on en parlait tout à l'heure, la question clé, c'est l'incertitude finalement, que ce soit sur la politique de Trump, sur les droits de douane, les entreprises détestent l'incertitude. Et là, le fait d'avoir un horizon qui va s'éclaircir, finalement, somme toute, produira un peu d'impact, disons, de récessif sur la croissance globale de l'Europe, qui est déjà très, très, très faible, mais pas énormément. En tout cas, les recompositions se feront davantage au détriment de pays dont l'insertion dans l'internationalisation et le degré d'ouverture est extrêmement élevé. Et l'Irlande, comme c'est le cas dans le reportage qui vient d'être passé, risque d'en pâtir considérablement.
Véronique Richflores, est-ce que le Brexit fait partie des phénomènes que vous analysez comme une conséquence de ce que vous évoquiez tout à l'heure, dès le début de l'émission, comme un vieillissement des populations, un impact sur le refus d'échanger, de se refermer en quelque sorte sur un univers plus connu?
Alors, j'irai pas jusqu'à l'associer aux problématiques du vieillissement, mais plutôt aux effets, effectivement, de rejet d'un monde dans lequel on voit se creuser les inégalités, où on a l'impression de perdre en influence sur ses responsables politiques, et où la population britannique, comme beaucoup de populations, finalement, dans ce contexte-là, rejette quoi ? Rejette l'Europe, parce que l'Europe est censée être responsable de tous ces maux, ce qui est probablement assez loin d'être le cas. Mais effectivement, c'est un phénomène de la même manière. On avait à l'époque d'ailleurs rapproché beaucoup le résultat du référendum de 2016, des élections, de celui des élections américaines, avec l'élection de Donald Trump, qu'on peut qualifier, me semble-t-il, de populiste, hein, et de reflet effectivement d'un malaise de la population américaine, et en particulier de la population la plus démunie. Donc, il y a quelque chose dans ce phénomène de rejet de l'Europe qui vient de la dérive de nos sociétés, d'un monde plus dur, d'une économie moins redistributive et qui est indirectement lié à tous les sujets qu'on a abordés durant cette émission. Je voulais juste te dire, si j'ai 30 secondes, on évoque souvent les services. Attention à ce que sont les services. Moi, j'ai montré qu'aux aux États-Unis, aujourd'hui, la dynamique de l'emploi, hein, qui tous les mois nous surprend, est largement liée aux services auxquels ? Aux services de santé, à l'emploi dans la santé. Est-ce qu'un emploi dans la santé, qui est en plein boom depuis plusieurs années, a la même valeur qu'un emploi dans une entreprise qui fait des services aux entreprises, derrière lesquelles on va mettre une belle étiquette de services plutôt présomptueux ? J'en suis pas sûre.
Helmut Mood, oui, pour le mot de la fin, 20 secondes.
20 secondes, alors donc je laisse tomber la question des services, puisque c'est voilà. Plus compliqué. On a en tout cas des travaux qui permettent de mesurer ça correctement. Je dirais simplement que sur la question du Brexit et de ses effets, je rappelle juste un chiffre. En 1980, la part du PIB des 28 pays européens dans le PIB mondial était de 28%. Et aujourd'hui, quand on regarde le chiffre réel, on est à 18%. Donc 10 points de moins. Donc en fait, et le fait que la Grande-Bretagne sorte de cela ne changera pas beaucoup les choses. Donc la grande problématique, c'est effectivement est-ce que l'Europe est capable aujourd'hui de se constituer en vraie Europe beaucoup plus intégrée, beaucoup plus fédérée et sur le plan technologique constituer une force, une puissance. Alors l'incertitude géopolitique auquel on a à faire face aujourd'hui, dont on n'a pas parlé, mais je pense qu'il était très importante, c'est la question des conflits entre l'Iran et les États-Unis et son impact sur le prix du pétrole, toutes ces menaces devraient porter finalement, paradoxalement, parce que c'est pas facile dans le cadre du populisme dans lequel nous sommes aujourd'hui, mais porter à renforcer effectivement une Europe face à ces défis.
Merci, cette émission est maintenant terminée. Merci à vous deux, Véronique Richflores, Selma Mahmoud, d'avoir accepté l'invitation de RFI. Vous pouvez nous réécouter en podcast sur notre site internet www.rfi.fr ou sur votre smartphone via l'application Pure Radio. Et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures économiques.
Écho d'ici, écho d'ailleurs.
sur RFI.
Tout à l'heure sur RFI.